Radio Prague Internationale en français, les informations.
Chers amis, bonjour. Voici les titres. 30 ans après, le chef de la diplomatie tchèque découpe symboliquement le rideau de fer. Le président de la République présentera ses vœux à la nation jeudi à 13h. Et y aura-t-il de la neige à Noël? Non, mais après Noël, oui. 30 ans après son prédécesseur tchécoslovaque Jiří Dienstbier, qui avait découpé le rideau de fer le 23 décembre 1989 avec son homologue de République fédérale d'Allemagne Hans-Dietrich Genscher, eh bien le chef de la diplomatie tchèque Tomáš Petříček était à Rozvadov ce lundi pour lui aussi manier la pince. Monseigneur, le ministre tchèque des Affaires étrangères, a symboliquement découpé des barbelés en compagnie de responsables régionaux du Land de Bavière. Le président de la République, Miloš Zeman, adressera ses vœux à la nation le jeudi 26 décembre dans une allocution télévisée à 13h selon son porte-parole. Ses vœux seront diffusés par la télévision publique tchèque ainsi que par deux chaînes privées, TV Nova et TV Barrandov. C'est à cette dernière, TV Barrandov, que le chef de l'État accorde un entretien exclusif hebdomadaire. Du sport avec du hockey et le hockeyeur tchèque David Pastrňák qui aura l'honneur d'être capitaine de la sélection atlantique pour le prestigieux All-Star Game entre les meilleurs joueurs de la NHL le 25 janvier prochain à Saint-Louis. L'attaquant des Boston Bruins a été désigné après un vote des fans. Contrairement au russe Ovechkin, lui aussi capitaine, David Pastrňák à 23 ans sera capitaine pour la première fois de sa carrière. Il a déjà 28 buts à son compteur cette saison, soit 4 de plus que tout autre joueur de la NHL. On en reparle dans la deuxième partie du programme en français de Radio Prague International avec un expert en hockey sur glace. Un mot sur la météo, une météo observée de près par les skieurs et par toutes les stations de ski des montagnes tchèques. L'espoir fait vivre car les météorologues, s'ils ne prévoient pas de la neige le jour de Noël cette année, annoncent que les flocons pourraient tomber le week-end prochain. Jusqu'à 20 cm de neige sont même attendus en tout au-dessus de 800 mètres d'altitude à partir de vendredi prochain et tout le week-end, en tout cas à en croire l'une des météorologues le plus souvent citée par les médias nationaux. Un mot encore pour vous dire que ce week-end, Karol Sidon, le grand rabbin de République tchèque, a allumé en fin d'après-midi dimanche un chandelier à 8 branches installé à l'ancienne gare de Boubny à Prague. Cet événement marquait le début des célébrations de la fête juive de Hanouka qui va se poursuivre jusqu'au 30 décembre prochain. La gare de Boubny n'a pas été choisie par hasard, c'est de ce lieu que, entre 1941 et 1945, les juifs tchèques ont été déportés vers les camps de concentration nazis. Dimanche soir, une autre grande menorah, un chandelier juif, a été allumé également sur la place Jan Palach dans le centre-ville de la capitale. Un mot sur la météo dont je vous parlais il y a quelques secondes. Avec ce mardi, jour de Noël, qu'on appelle le Štědrý den en tchèque, des températures maximales autour de 7 degrés et de la pluie, pas de neige donc, de la pluie qui sont attendues pour ce jour de Noël, avec surtout Radio Prague International dans les oreilles. J'espère que vous êtes confortablement installés avant ces jours de fête. En tout cas, vous le savez, vous pourrez écouter tous les podcasts, toutes les archives de Radio Prague sur notre site www.radio.cz. Dans une poignée de secondes, c'est le programme du jour avec Magdalena Hrozinková.
Faits et événements en République tchèque.
Merci à vous, Alexis Rosenzweig. Bonjour à toutes et à tous à l'écoute de ce programme d'actualité de Radio Prague International. Dans cette émission, nous allons visiter ensemble les incontournables marchés de Noël de Prague. Avant de parler hockey sur glace avec le journaliste québécois François Gagnon, nous allons évoquer l'état actuel du hockey tchèque, mais aussi le regard qui était porté autrefois au Canada sur les joueurs d'Europe de l'Est. Excellente écoute. Prague, la ville dorée, ne portera jamais aussi bien son surnom qu'en fin d'année. Ses rues sont en effet prises d'assaut par les visiteurs et ses différents marchés de Noël la faisant briller de mille feux. Plébiscité par les autochtones comme par les touristes, il figure cette année encore dans le top 20 des plus beaux marchés de Noël en Europe, selon European Best Destination. Camille Montagnon.
La Saint-Nicolas, célébrée par les Tchèques le 5 décembre, a comme chaque année marqué le début des festivités de Noël. Brno, Olomouc ou encore Plzeň, décembre a vu fleurir une ribambelle de marchés de Noël, Vánoční tři en tchèque, dans tout le pays. Activité phare des fêtes de fin d'année, c'est à Prague que les marchés de Noël sont les plus renommés, y drainant des touristes du monde entier. Le thème de cette année étant les anges, c'est autour de sapins décorés d'anges imposants et lumineux, ou encore de huttes en bois coiffées d'angelots, que les visiteurs pourront évoluer jusqu'à la fermeture des marchés, le 6 janvier prochain. D'ici là, environ une dizaine de marchés de Noël investissent les places principales de la capitale, telles que les places Venceslas, de la République, de la Paix ou encore Thiel. Des étals plus modestes sont également multipliés, par exemple derrière la cathédrale Saint-Guy au château, ou sur l'île Campa, mais aucun ne rivalise avec ceux de la place de la vieille ville. Prisé des touristes toute l'année, le cœur de la ville n'aura pourtant jamais autant résonné de voix étrangères qu'à l'approche des fêtes. Nous avons rencontré une Française de passage à Prague qui ne regrette pas d'avoir fait le déplacement.
Non, les monuments sont magnifiques, ouais. Vraiment l'architecture c'est super. Et c'est vraiment très dépaysant par rapport à Paris, parce qu'on n'a pas du tout ce type d'architecture. Donc moi personnellement ça m'a vraiment plu.
Le charme naturel de la place est en effet propice à la magie des fêtes de fin d'année. Impossible d'y passer sans apercevoir son sapin de Noël de 22 mètres de haut, décoré jusqu'à la cime et venu des forêts de la région de Liberec. Attendez 16h30 et la tombée du jour pour voir sa multitude de lumières s'allumer et vous immerger un peu plus dans l'atmosphère féerique du lieu, même si vous ne serez pas seul à profiter de l'instant. Le pont d'observation de la place croule en effet sous le nombre de touristes venus poser en photo devant le sapin, avec en toile de fond l'église baroque de Notre-Dame-du-Tine. Rien de comparable aux bouchons en France, cependant, à en croire ce groupe de Parisiens.
Je trouve que c'est très calme, c'est bon enfant,
sympa,
oui. C'est propre en plus. Ouais. Enfin, voilà, on s'attendait à une foule et pas pouvoir bouger, mais en fait, non.
Pour les visiteurs, les marchés sont l'occasion de goûter les spécialités tchèques de Noël. C'est le cas de ces trois amis venus de Corse qui nous ont énuméré les indispensables à un marché de Noël réussi.
Le vin chaud, les petits gâteaux roulés avec la crème dedans et tout ce qui est artisanat.
La verrerie,
voilà.
Tout ça c'est magnifique.
Salerie. Et il ne fait pas froid.
Oui, c'est vrai, il ne fait pas froid.
Ouais. Non.
En effet, rien de tel qu'un verre de vin chaud pour se réchauffer. Qu'il s'agisse de Medovina, vin au miel, ou de Svarjak à la cannelle, les boissons chaudes font fureur. Les fameux Tredelnik, pâtisseries chaudes enrobées de sucre, n'ont cependant rien à leur envier, comme nous l'a expliqué Zuzana, qui dit en vendre 4 à 500 par jour.
We work the whole year, but on the Christmas market, it's the biggest profit and most work.
Nous travaillons toute l'année, mais c'est lors du marché de Noël que nous faisons le plus de profit et aussi que nous avons le plus de travail. Depuis que le Tredelník est devenu le traditionnel pain sucré tchèque, même s'il n'est pas vraiment tchèque, les gens en achètent beaucoup au moment de Noël. Nous n'avons presque aucune pause dans la journée.
Pas de pause non plus pour les stands de victuailles. Si l'on y retrouve les spécialités de Noël habituelles, comme les amandes grillées, les marrons chauds ou bien le punch aux épices, la cuisine tchèque fait elle aussi l'unanimité. Entre langoche, ces pains plats carnis d'ail, de fromage et de ketchup, cuisseaux de porc rôti à la broche et vanochka, les brioches tressées de Noël, vous n'aurez que l'embarras du choix. En plus de se manger, les spécialités tchèques s'écoutent. Les traditionnelles chorales scolaires se produisent régulièrement dans le centre-ville, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Nous avons assisté à l'un de ces concerts de rue, place Venceslas, où des petits chanteurs tchèques, écharpe au cou et bonnet sur la tête, ont poussé la chansonnette. C'est au son des chants tchèques de Noël que vous pourrez faire vos emplettes et dénicher des souvenirs parmi les boules de Noël en cristal de bohème, les jouets en bois, les bougies parfumées, les décorations de sapin, ainsi que les marionnettes vêtues de costumes traditionnels. Traditions et fêtes de fin d'année sont donc étroitement liées en Tchéquie. En témoigne la fameuse carpe de Noël dont l'arrivée sur les tables tchèques date du 19e siècle. Parmi ces coutumes, la multitude de crèches présentes dans chaque ville de République tchèque ainsi que sur nombre de marchés de Noël pragois. Bien que ces scènes de la nativité, qui ont fait leur apparition en République tchèque en 1562, ornent la capitale d'un des pays les plus athées du monde, elles ne sont guère questionnées et participent au folklore. Dans un tout autre registre, les patinoires constituent elles aussi une attraction, et c'est sur celle du marché aux fruits que nous avons rencontré Lukasz, un Pragois particulièrement à l'aise avec l'exercice.
I was born like hockey children, Czech hockey children, it was the classic.
Je fais du hockey sur glace depuis tout petit. Pour les enfants tchèques, c'était plutôt commun de pratiquer le hockey sur glace et le patinage il y a 20 ans. C'est normal, classique je dirais, de patiner en République tchèque. Et je pense qu'on y patine mieux qu'en France ou que dans d'autres pays d'Europe.
Pour autant, les patinoires éphémères qui parsèment Prague à l'occasion de Noël rencontrent un franc succès auprès des populations locales et participent à l'ambiance joyeuse qui y règne. Lukasz a conseillé quelques adresses aux Français, d'ordinaire plus accoutumés au vin chaud qu'au patinage.
Now it's not the winter like in 1915, 1916.
Aujourd'hui, les hivers ne sont plus ceux de 1950. Dans les années 50-60, vous pouviez patiner sur la rivière Vltava lorsqu'elle était gelée. Maintenant, je vous conseillerais plutôt d'aller à des patinoires comme celle de Vodsnitr, ou de Na Frantichku, ou de Letna, ou bien celle de Nikolaïka, dans le quartier de Smichov.
Or Letna and on Smichov too.
Des festivités qui ont donc de quoi satisfaire tout un chacun et qui, en attendant le 25 décembre, transforment les pérégrinations dans Prague en moments hors du temps. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël ou, comme disent les Tchèques, Veselé Vanoce.
Sport en République tchèque.
Avec 51 points en 37 matchs, dont 28 buts et 23 assistances depuis le début de la saison régulière, David Pastrniak est actuellement à la fois le quatrième marqueur et le meilleur buteur de la NHL. Mais l'ailier des Bruins de Boston est un peu l'arbre qui cache la forêt. À la différence de leur glorieux aîné, vainqueur notamment du tournoi du siècle aux Jeux Olympiques de Nagano en 1998, rares en effet sont désormais les joueurs tchèques à compter parmi les tout meilleurs dans la prestigieuse Ligue nord-américaine de hockey sur glace. Spécialiste du hockey sur la chaîne de télévision québécoise, le Réseau des Sports, François Gagnon s'est confié récemment à Guillaume Narguet suite à l'intronisation de Václav Nedomanski au Temple de la Renommée à Toronto. À cette occasion, nous avions évoqué avec lui l'état actuel du hockey tchèque, mais aussi, par exemple, le regard qui était porté autrefois au Canada sur les joueurs d'Europe de l'Est.
Ben, c'était l'ennemi. C'était des soldats, particulièrement à cause de l'équipe de l'ancienne Union soviétique. La série du siècle de 72 avait permis de réaliser que c'était pas des soldats. Oui, il y avait des grades qui étaient associés à leurs fonctions parce que c'était tous, ils avaient tous fait le service militaire et tout, mais c'était aussi des joueurs de hockey. Et si vous vous souvenez, le début de la série du siècle, quand Tretiak, Kharlamov et tous ces joueurs-là sont arrivés, ils ont pris la Ligue nationale et le Canada et les amateurs de hockey de court. Ils les ont surpris par leur manière de jouer. Et puis, ils ont eu du succès. Et le succès, rapidement, s'est traduit par, je dirais, un capital de sympathie. Alors, Nedomanski a fait défection, quoi, 2 ans après la série du siècle, et ça a été le premier, mais il y avait, il y avait 2 camps. Un camp beaucoup plus petit, composé d'admirateurs de ces hommes-là qui partaient de la... qui franchissaient le rideau de fer, qui venaient jouer ici. On regardait les Européens avec un œil, intéressé pour voir leur technique d'entraînement, pour voir ce qu'ils apportaient de différent au hockey. Mais il y avait une autre équipe, un autre camp, qui était beaucoup plus, imposant et qui regardait ces joueurs-là arriver comme étant, l'expression ici consacrée, des voleurs de job, comme étant des joueurs qui étaient plus frêles, qui jouaient pas le hockey dur de l'Amérique du Nord, qui étaient plus fins dans leur observation du jeu que des costauds qui allaient brasser dans des coins de patinoire. Donc ça a été un peu ce qui a mis les deux camps en opposition. Ceux qui regardaient les joueurs qui arrivaient d'Europe avec, les regarder de haut, et ceux qui les regardaient avec admiration.
Comment expliquez-vous que Václav Nedomanski soit seulement le deuxième joueur tchèque de l'histoire à être introduit au Temple de la Renommée à Toronto?
C'est la théorie des grands nombres. C'est le deuxième derrière Peter Stachny. Yaromir Jagr va y être un jour.
Deuxième après Dominique Hašek, le gardien.
Ah ben Dominique Hašek, oui, mais là j'inclus, en fait, j'inclus les Slovaques aussi. Oui. C'est peut-être mon erreur. Là.
Non.
C'est une théorie des grands nombres aussi. Je devrais faire la distinction parce que les deux pays sont autonomes, là, la Slovaquie et la Tchéquie, mais n'empêche que pour moi, quand on revient dans l'histoire, là, c'est ce regroupement-là géopolitique de joueurs, là, et c'est le deuxième parce qu'il n'y en a pas eu énormément. Quand on regarde dans un avenir rapproché du côté de la Ligue nationale, il est clair qu'il y aura d'autres joueurs qui vont s'ajouter, mais est-ce qu'on va un jour avoir 8, 10 Tchèques ou Slovaques qui vont joindre les rangs? On est rendu à quoi, le 9 ou 10 au niveau de la Russie? C'est sûr que ce sera toujours plus difficile au niveau du nombre, mais l'important pour moi, c'est que les plus grands de l'histoire du hockey tchèque et slovaque ou tchécoslovaque soient reconnus. Et c'est ce qu'on a fait en fin de semaine. Et c'est un petit pas, mais c'est aussi un pas nécessaire dans la bonne direction.
Vous n'êtes pas sans savoir que les hockey tchèques et slovaques traversent une crise importante de résultats depuis quelques années, que ce soit lors des Jeux olympiques, des championnats du monde ou des Coupes du monde. De moins en moins de joueurs tchèques et slovaques évoluent dans la Ligue nationale, en NHL, surtout si on compare par rapport à l'énorme boom des années 1990 après la chute des régimes communistes. Est-ce que c'est un phénomène que vous avez également observé depuis le Canada?
Oui, mais c'est un phénomène qui n'est pas unique au hockey tchèque. Le Québec, pour parler de ma nation à moi, produit de moins en moins de hockeyeurs. Alors, les réponses se situent où? Elles se situent au niveau du hockey mineur. Et moi, je vois ici un désintéressement des jeunes vers le hockey organisé. Donc, si au début de l'équation, on a moins de candidats, ben il est normal qu'à la fin de l'équation, quand on va chercher les meilleurs joueurs, que notre bassin est beaucoup plus restreint qu'il l'était il y a 20, il y a 30, il y a 50 ans. Alors, est-ce qu'on a encore un nombre suffisant de jeunes joueurs qui, après l'école au niveau primaire, lancent leur sac d'école et chaussent les patins et s'en vont à l'aréna pour jouer au hockey? Si ce nombre-là est en croissance et non en décroissance comme ici, et qu'en bout de ligne, on n'a pas assez de joueurs au niveau de la sélection nationale et que le niveau de compétitivité est diminué, ben là, on a un problème au niveau du développement, puis au niveau des structures, puis au niveau de l'enseignement du hockey. Ici, en ce moment, c'est la théorie des grands nombres qui fait défaut. C'est qu'on a moins de jeunes à la base qui jouent, donc on a moins de jeunes à donner à la Ligue nationale. Et ça, c'est pour moi désolant. Mais en même temps, notre jeunesse est de plus en plus active. Et ici, il y a un phénomène que vous connaissez depuis longtemps qui est le soccer, le football, qui est le sport numéro un. Les jeunes d'aujourd'hui ici le découvrent. Donc, s'ils délaissent le hockey pour se tourner vers le soccer, vers le tennis, vers d'autres sports, au moins on a des jeunes qui sont actifs. Mais c'est sûr que l'amateur de hockey en moi est un peu déçu parce que nos meilleurs athlètes ne sont plus nécessairement ceux qui se dessinaient il y a 30 ans uniquement vers le hockey. Mais ça, c'est une réalité qui est à l'inverse aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, on jouait au football américain, on jouait au baseball, on jouait au basketball. Mais là, vous avez des jeunes comme Austin Matthews, qui est né et qui a grandi dans le désert de l'Arizona à Phoenix, et qui un jour a délaissé le baseball au profit du hockey. Et c'est parce que les Coyotes de Phoenix lui ont fait découvrir le hockey. Donc, pour moi, c'est une grande boucle là, qui suit son cours. Et l'important pour moi, c'est qu'on ait une jeunesse active. Peu importe le choix du sport qu'elle fera, cette jeunesse-là, mais c'est sûr que j'aimerais voir quand même un nombre certain de jeunes joueurs de hockey pour permettre à la Ligue nationale de ne pas être prise d'assaut par des Américains et que dans 15 ans, d'ici ou 20 ans, que la grande majorité des joueurs de la Ligue nationale et des vedettes soient américaines au lieu d'être canadiennes comme c'était le cas il y a 50 ans et qu'on ait encore une place pour les joueurs européens si tant est que l'Europe continuera à fournir des grandes vedettes comme Jaromír Jágr et comme Václav Nedomanský.
Heureusement pour les Tchèques, il reste David Pastrňák qui est actuellement en tête du classement des buteurs de la NHL. Quel regard portez-vous sur son début de saison avec Boston?
Ah, écoute, pour moi, ce trio-là avec Patrice Bergeron et avec Brad Marchand est le meilleur trio de la Ligue nationale, le trio le plus complet. Et je fais exception des statistiques purement et simplement des buts et des passes ici. Quand on regarde la composition de ce trio-là, c'est une composition parfaite. C'est rêvé pour n'importe quel entraîneur-chef. Tu as un gars comme Pastrňák qui est un franc-tireur extraordinaire. Tu as Brad Marchand qui a toutes sortes de qualités et qui en plus est un agitateur, donc ça peut donner une dimension différente à ce trio-là. Et t'as Patrice Bergeron qui, en ce moment, à mes yeux en tout cas, est certainement le joueur le plus complet de la Ligue nationale. Donc, pour un entraîneur et une organisation comme les Bruins, de pouvoir compter sur un trio comme celui-là, c'est un cadeau tombé du ciel. Maintenant, la qualité de franc-tireur de Pastrňák est phénoménale et c'est un joueur qui attire l'attention pour toutes les bonnes raisons et qui va justement sera en mesure d'atténuer ou d'apaiser les critiques des Nord-Américains à l'endroit des hockeyeurs européens. Les Bruins de Boston, les Big Bad Bruins, comme on les a toujours appelés, c'est un club de... les partisans sont des cols bleus, sont des à certains égards des hooligans, mais qui n'ont pas tendance à être ouverts aux Européens. Mais quand tu regardes cette équipe-là, ben, leur capitaine Zdeno Chara, qui est un Slovaque, Pastrňák qui est tchèque et qui arrive et qui prend la Ligue nationale d'assaut. Donc, à un moment donné, tu as beau avoir un scepticisme patriotique, mais les réalités sont là pour te convaincre du contraire. Et c'est plus qu'intéressant pour le hockey européen de voir que Pastrňák arrive à un moment où Chara est en mesure de préparer une retraite bien mérité.
François Gagnon, vous n'êtes pas sans savoir que Jaromír Jágr est un véritable phénomène ici en République tchèque. Alors, il n'évolue plus en Amérique depuis quelques temps, mais il est revenu et il joue toujours dans son club d'origine, Kladno. Est-ce que vous continuez à suivre ce phénomène?
Je suis à distance. Pas, et je vous dirais que à ce niveau-là, c'est pas à cause de Jágr, c'est plus à cause de Tomáš Plekanec, qui est lui aussi de Kladno, qui est un grand ami de Jaromír Jágr, mais qui a fait faux bond à sa ville et à son grand ami pour aller jouer du côté de Brno. On vient de célébrer le premier anniversaire de la retraite de Tomáš Plekanec. Je lui ai d'ailleurs parlé il y a quelques semaines pour effectuer un reportage sur sa nouvelle vie à son retour à son pays. Donc, c'est par le biais de Plekanec que je suis un petit peu ce qui se passe en Extraliga. Mais vous l'avez dit tantôt, de voir Jágr toujours actif, et je dirais pas simplement actif, mais d'être en mesure de performer comme il fait, c'en est un autre là, qui entrera au temps de la renommée dès la première minute qu'il sera éligible. Donc, c'est une autre preuve qu'il y a de grands joueurs qui évoluent partout sur la planète hockey et on a la chance ici du côté de la Ligue nationale de pouvoir les avoir pendant un certain temps et je suis heureux de voir qu'ils retournent chez eux, peut-être pas au fait de leur carrière mais qu'ils sont en mesure de retourner un en République tchèque, un en Russie, en Suède, en Finlande, un peu partout pour redonner à leur sport et redonner au pays qui les a aidés à les propulser vers la Ligue nationale. Mais le mot phénomène, quand on l'associe à Jaromír Jágr, je vous dirais que ça va de soi parce que c'est réellement, et ça a été réellement, et ça l'est encore, un phénomène du hockey.
François Gagnon, merci beaucoup.
C'est un plaisir.
C'est ainsi que se termine notre émission en français. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie de l'avoir suivi. L'information tchèque en français, ça continue sur le site de Radio Prague International au www.radio.cz/fr et aussi sur les réseaux sociaux. Joyeux Noël, chers auditeurs. Demain, rendez-vous avec Guillaume Narguet pour notre émission spéciale. Au revoir. Naslyšenou.